Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, le temps pourri est toujours présent, malheureusement. Donc bon, c'est pas grave, on va quand même faire ce podcast ensemble, parce que c'est pas ça qui va nous arrêter. On va passer quelques minutes ensemble aujourd'hui. Alors, petit podcast qui va traiter de deux questions, des questions que j'ai reçues alors, la première, c'était sur Instagram et la deuxième, c'était par mail. Donc, bon, avant de commencer, je voulais juste dire que hier, il y a le programme pour les fessiers qui est sorti sur le site. Donc, vous pouvez accéder au programme directement. Je vous mets le lien en description. C'est un programme qui est basé essentiellement sur le travail des fessiers et pas du bas du corps, vraiment des fessiers. Quand je l'ai fait, ça a été intéressant de voir que j'avais des courbatures le lendemain que aux fessiers, et ni aux ischios, ni aux quadris, ni au bas du dos, etc. Donc en fait, ce programme il répond à une demande de personnes qui voulaient augmenter le travail sur les fessiers. Tout en continuant à faire quand même des séances de cuisses dans la semaine, et vous savez très bien que quand on fait des séances de cuisses, eh ben on a beaucoup de courbatures et c'est compliqué de retaper sur un muscle courbaturé. Et donc ben pour les fessiers, là c'était un petit peu différent parce qu'on peut faire le programme fessier, on a des courbatures qui sont moins intenses, qui sont présentes mais moins intenses, mais on peut quand même entraîner les cuisses deux jours après sans problème. Voilà, donc je vous mets le lien en description, vous avez le programme en PDF, vous avez les exercices filmés en vidéo, vous pouvez le faire à la maison, en salle, comme vous voulez. Et puis bien sûr, je vous explique tout aussi, vous avez une vidéo où je détaille, et ça sert à rien d'avoir un programme et des mouvements si on vous explique pas le pourquoi du comment. Donc vous avez tout ça en description, et on démarre tout de suite avec la première question. Alors, bon, salut Théo, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc merci à toi. J'aimerais savoir si tu pouvais faire un podcast sur l'exécution et tempo du mouvement en musculation, lequel permet une meilleure hypertrophie du muscle. Merci à toi. Alors, vaste question, une question qui est légitime, on va dire, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Pour que les gens aient des choses à dire, ils vont parler de tempo. En fait, ils vont aller dans le détail de l'entraînement. Et je sais que pas mal de personnes se sont un petit peu mis... Il y a quelques années, je pense, où on parlait beaucoup de tempo, il fallait avoir un tempo particulier et tout. Aujourd'hui, la réalité montre que c'est assez compliqué finalement de respecter un tempo quand on s'entraîne. Je m'explique. Là, tu mets dans ta question une meilleure hypertrophie du muscle. Donc déjà, on va parler de la phase de contraction du muscle. Par exemple, si c'est au squat, eh ben quand tu pousses, quand tu montes, quand tu développes la charge, que ce soit au développé couché, quand tu pousses la charge, que ce soit les tirages pour le dos, quand tu tires la charge. Donc tout ce qui est mouvement de contraction. Donc le meilleur tempo, c'est le tempo le plus rapide. Mais la rapidité est une intention, est une volonté que l'on a quand on est sous la charge et qu'on doit la pousser. Par contre, visuellement, ça ne sera pas rapide. Et pourquoi ça sera pas rapide visuellement? Parce que la charge va être lourde. Mais toi, ton intention est d'aller le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'en allant le plus rapidement possible, ou en voulant aller le plus vite possible, sur la contraction, je précise, c'est là où tu auras le maximum de contraction, de fibres qui vont se contracter. Donc, une intensité maximale. Donc, une personne, par exemple, au développé couché, vous pouvez avoir l'impression qu'elle monte la barre lentement. Sauf que, intentionnellement, elle essaye d'aller le plus vite possible. Et c'est le poids qui freine la vitesse et donc qui donne une image d'une montée lente. Mais elle n'est pas lente, elle est rapide. En fait, elle est. On ne peut pas aller lentement quand on a une charge qui est presque notre maximum. C'est pas possible. Parce que ce serait très compliqué. On a besoin d'envoyer toute la gouache. Et si on n'envoie pas toute la gouache, on reste bloqué comme un con sous la barre. Donc, déjà, ça c'est la première partie de la réponse par rapport au tempo. Donc la contraction, on essaye toujours d'être le plus rapide possible. Ensuite, on va, c'est ce qui est beaucoup, on va dire, argumenté, ça va être la phase négative, donc la phase d'étirement, la phase qui est dangereuse aussi, et également les phases de pause en étirement et en contraction. Donc la négative, donc la phase de descente, la phase d'étirement, donc quand on est au squat, quand on descend, quand on est au développé couché, quand on descend, et quand on est au tirage, et ben quand la charge nous tire, donc soit la barre de traction, c'est quand on descend, ou alors quand on est sur un tirage, je sais pas, un tirage, un rowing ou quoi, c'est également quand la barre se rapproche du sol et vient nous étirer les muscles du dos. Donc cette phase-là, si on est très rapide, on va gagner en efficacité dans le sens où on va avoir beaucoup d'énergie élastique, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet rebond relativement important, mais également c'est là où en fait on vient mettre une tension d'étirement assez violente. Donc certes c'est intéressant pour la prise de masse musculaire parce que c'est ce qui va créer le plus de dégâts, c'est là où on va être le plus fort également pour la remontée derrière, mais pour des personnes qui ont du mal à ressentir une zone musculaire en particulier, ça peut être intéressant de ralentir cette phase négative de manière à mieux ressentir. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, ça veut simplement dire qu'il faut s'adapter par rapport à ses besoins. Il y a des personnes qui vont être très aptes à bien congestionner, et bien contracter les muscles quand ils ont une descente négative très rapide, mais quand ça va être ralenti, ils vont perdre beaucoup de sensations et ça va pas être intéressant parce qu'ils perdent trop de force, etc. Donc le tempo, encore une fois, c'est pas figé. Je parle bien d'hypertrophie musculaire et pas de force, etc. Et toutes ces choses-là, performance sportive et tout, ça m'intéresse pas. Nous, ce qu'on veut ici, enfin, en tout cas, si vous écoutez mon podcast, en règle générale, c'est que vous avez aussi un point de vue de développement un petit peu esthétique. Et donc, voilà. Après, il y a deux choses également sur le tempo. Ça va être la phase quand on est en étirement maximal, donc ça veut dire quand on a la barre par exemple posée presque sur les pecs au développé couché ou qu'on est en flexion complète au squat, est-ce qu'on doit faire une pause de 1 seconde, 2 secondes avant de repartir? Ça c'est toujours pareil. Il faut savoir une chose, si vous faites une pause en bas du mouvement, donc en phase d'étirement, vous allez annuler le phénomène d'énergie élastique, donc l'effet rebond, et donc vous allez devoir repartir un petit peu comme on appelle à la claque, c'est-à-dire vous allez devoir repartir avec une énergie élastique qui est quasiment nulle, c'est-à-dire repartir avec un influx nerveux très violent, très puissant d'un coup. Donc on fait moins de répétitions, ça peut être intéressant pour développer justement sa force sur cet angle de mouvement-là, mais après il n'y a pas d'intérêt en termes d'hypertrophie musculaire de faire ce genre de choses-là. Mieux vaut avoir une cadence régulière. Et pareil, après, par contre, quand on est au pic de contraction, donc par exemple aux tractions, quand on est complètement remonté, quand on est au squat, quand on a les cuisses qui sont contractées en haut du mouvement, quand on est au développé couché, les bras semi-tendus avec les pectoraux bien contractés, là, ça peut être intéressant, encore une fois, si on veut améliorer la sensation et la contraction musculaire, de contracter volontairement pendant une bonne seconde, de manière à avoir le maximum de contraction sur le mouvement. Alors, ce genre de choses, ça fonctionne bien mieux sur les exercices d'isolation que les exercices de base, parce que si vous regardez bien au squat, c'est compliqué de contracter à fond les quadriceps en haut du mouvement, alors que, ou même les pectoraux sur du développé couché ou autre. Par contre, à la poulie vis-à-vis ou au leg extension, c'est bien plus simple. Donc voilà, c'est toujours pareil, la réponse, elle n'est pas figée, c'est en fonction de tout un tas de choses. Donc j'espère que je t'ai bien répondu à ta question. Je passe à la deuxième question. Qui est une question que j'avais reçue par email. J'aimerais bien maintenant prendre en muscle de façon plus conséquente, car avec la diète cétogène, ce n'est pas la méthode la plus efficiente pour ça, évidemment. Le seul problème est que je veux garder plus ou moins ce même pourcentage de masse grasse, donc précédemment dans le mail il disait qu'il avait bien perdu en termes de graisse, pour pouvoir rentrer dans mes pantalons de costume, profession oblige. Quand j'étais à 85 kilos, je ne pouvais plus rentrer dans mes jeans et pantalons, et mes proches et collègues de boulot me traitaient de gros cul, pardon pour le gros mot. Question, comment je pourrais allier prise de masse musculaire, surtout au niveau du haut du corps et surtout au niveau des épaules, et rester pareil au niveau masse grasse? Je serais très honoré pour échanger avec vous, etc., etc. Donc, bref, merci pour ta question. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire du podcast, et Cyril s'occupera de me les transférer pour les prochains épisodes, les prochaines vidéos, etc. Bref, pour te répondre, En fait, tu as la même question que 99,99999% des gens, c'est-à-dire que tu veux prendre de la masse musculaire tout en restant sec. Ce qui est très 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 compliqué, voire même impossible. Je m'explique. Si tu as eu un passé en surpoids, c'est que tu as des capacités à être en surpoids, donc tu as probablement une mauvaise oxydation des glucides, tu as probablement, surtout si la diète cétogène a bien marché pour toi, et une faiblesse à rester sec, tout simplement. Donc à partir du moment où tu veux prendre de la masse musculaire, ça va être compliqué pour toi de ne prendre que de la masse musculaire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tenter de faire une diète de maintien avec un tout petit peu plus de calories que tes besoins, donc par exemple 200 ou 300 calories en plus, et de jauger, de ne pas aller à l'extrême. Je m'explique. Si aujourd'hui tu as bien perdu du gras, le fait de continuer à t'entraîner en termes de, on va dire, en muscu, tout simplement en hypertrophie, tu vas limiter un petit peu la reprise de graisse au niveau des fessiers et tout, surtout si t'es un homme. Par contre, là où ça va se stocker principalement, ça va être au niveau du bide si tu es en excès calorique. Donc, je vais être réaliste avec toi et je vais pas te faire marronner trop longtemps. C'est impossible. Enfin, j'aime pas dire le mot impossible, mais ça va être très compliqué pour une personne qui a des capacités, enfin qui a des fortes facilités à faire du gras, de rester sec tout en prenant du muscle. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une prise de masse la plus saine possible en termes d'aliments, on va dire. Donc, avoir des aliments les plus sains possibles pour pas accumuler du gras inutilement et d'essayer d'avoir un ratio de prise de masse gras-muscle favorable en termes de muscle. Pour ça, comment faire? Très simple, tu prends un mètre ruban, tu te mesures aujourd'hui le tour de taille, le tour de biceps, le tour de pec, etc. Et il faut que ton tour de taille augmente moins vite que les autres mensurations. Si ça augmente plus vite, c'est que ta diète est trop riche ou alors que tu prends trop facilement du gras, donc il va falloir plus t'activer et essayer de conserver le maximum la ligne. Comme tu disais, la diète cétogène, évidemment, elle est pas adaptée à ça. Pourquoi? Parce que la diète cétogène, déjà, elle est relativement riche en protéines. Enfin, non, la diète cétogène n'est pas riche en protéines. La diète cétogène est riche en graisse. Nous, on la rend riche en protéines, ce qui la rend plus du tout cétogène. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de perdre notre masse musculaire, etc. Donc, on mange plus de protéines qu'une diète cétogène normale. Il faut savoir une chose, c'est qu'une diète cétogène, une diète riche en protéines et très pauvre en glucides, est assez acidifiante, donc plutôt catabolisante, donc il faut faire attention à bien consommer de fortes doses de légumes pour tamponner un peu l'acide produit par la forte consommation de protéines. Donc ça c'est pareil, évidemment une diète cétogène ça va être compliqué parce que qui dit catabolisant dit prise de masse nulle, donc mieux vaut avoir un apport en protéines suffisant évidemment, un apport en végétaux suffisant évidemment, mais également un apport en glucides suffisant pour pouvoir anaboliser un minimum quoi, et ne pas avoir à manger 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, mais plutôt être dans les 2 grammes. Donc, voilà, pour te répondre sincèrement, je t'encouragerais pour garder la ligne. Si, alors, après, c'est toujours pareil, si tu veux développer au maximum, là tu me parlais des épaules, il va falloir faire un travail spécial pour les épaules. Si tu veux vraiment, vraiment, vraiment développer tes épaules, une séance par semaine, ça suffira pas, il va falloir que tu augmentes la fréquence sur les épaules, quitte à négliger un autre muscle, un point fort notamment, pour doubler ta séance épaule et faire beaucoup de séries longues, notamment pour améliorer le recrutement des muscles, on va dire, des épaules. Alors, en règle générale, les personnes, quand elles veulent développer les épaules, surtout la portion latérale, donc ce qui va être élévation latérale avec les haltères, à la poulie vis-à-vis, enfin à la poulie tout simple, pas besoin d'être vis-à-vis d'ailleurs, en réglant la hauteur de la poulie à mi-genou pour avoir un bon étirement en bas du mouvement et essayer de taper de la série longue à la brûlure, résistance mentale vraiment pour augmenter on va dire le recrutement de cette zone-là pour en profiter au mieux lors des entraînements lourds, d'avoir la meilleure sensation musculaire sur cette zone. Donc pour ça, si tu veux développer, tu ne peux pas être en diète de sèche et en même temps faire ça, sinon ça marchera pas. Enfin, tu vas gagner peut-être un peu en définition et tout ça, mais en termes de volume musculaire, ça marchera pas. Donc il faut que toi, tu sois prêt à augmenter la fréquence de travail, on va dire, sur les zones musculaires que tu veux développer. Au niveau de ton gros cul, comme tu disais, en rigolant, on va dire, et là, c'est pareil. Si tu as un entraînement régulier, constant, pour le bas du corps, il y a peu de chances que tu restocks sur cette zone, parce que chez les hommes, c'est plus compliqué de stocker à cet endroit-là. Et après, la diète, évidemment, plus tu vas avoir des index glycémiques modérés à bas, mieux ça va être, parce que moins tu vas stocker ces glucides sous forme de réserve, mais plutôt sous forme d'énergie, parce que la digestion va être un peu plus lente, mais le prix à payer, c'est que la prise de poids, donc la prise de muscle, va être un petit peu plus lente également. Donc c'est toujours pareil, c'est un réglage à avoir au quotidien. La prise de masse, moi je trouve que c'est quand même plus compliqué que la perte de graisse, enfin en tout cas pour les personnes qui ont été précédemment en surpoids, parce que elles ont toujours une prise de graisse qui les freine et qui les font tourner en boucle et donc stagner. Donc voilà, j'espère que je t'aurai bien répondu à ta question. En tout cas, moi je m'arrête ici pour ce podcast. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si le programme 100% fessier vous intéresse, vous l'avez en description. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et puis tout au long de la semaine pour tous les épisodes qui vont venir. Donc la vidéo du jeudi, la vidéo du vendredi, la vidéo formation du dimanche, la petite vidéo que je mets maintenant sur Instagram le lundi à 18h et les deux articles que je publie dans la semaine, plus les petites newsletters que vous avez tous les matins avec mon conseil fitness. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite. Bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc, je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo, hein. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu. Mais il y a également des programmes d'entraînement, il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast, volontairement, pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc., etc. Donc vous avez un petit lien directement et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.